Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le président français Emmanuel Macron appelle au retrait du 1-23 et des troupes rwandaises du territoire congolais. Appel lancé au cours d'un point de presse à la fin hier samedi en France du 19e sommet de la francophonie. Le bilan provisoire du naufrage sur le lac Kivu du jeudi dernier, 3 octobre, s'est alourdi. 34 morts et 80 rescapés sont des nouveaux chiffres. Sur le terrain, des recherches individuelles se poursuivent encore par les membres des familles qui ont perdu les leurs, tandis que certaines familles à Goma et à Minova organisent déjà le deuil. Masumbuko Celestin, président national de la plateforme Sauti Ya Wazee, autrement dit la voix des vieux, est notre invité. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition d'information. Fin hier samedi en France du 19e sommet de la francophonie. Au cours d'une conférence de presse tenue à l'issue de ce sommet, le président français Emmanuel Macron a appelé au retrait du 1-23 et des troupes rwandaises du territoire congolais. Plus de détails avec vous, Alain Hirung.
Nous encourageons la RDC et le Rwanda à parvenir à un accord dans le cadre de la médiation angolaise et l'OIF doit jouer un rôle en soutien des efforts régionaux. Pour ce qui est de la France, nous appelons au retrait du M23 et des troupes rwandaises. Nous appelons aussi à procéder au démantèlement des FDLR et de tous les groupes armés en RDC et à l'arrêt des discours de haine, a déclaré Emmanuel Macron. Le président français a aussi lancé un appel à la reprise d'un processus politique avec le M23 et toutes les composantes politiques pour permettre un chemin de paix et le retour plein et entier de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Il souhaite une approche globale pour régler le conflit qui sévit dans l'est de la RDC en profondeur. Monsieur Macron a aussi appelé au respect de la souveraineté de la RDC. Nous avons redit l'importance de parvenir à une solution durable des crises dans la région des Grands Lacs, apporté notre solidarité avec la RDC, appelé au respect de sa souveraineté, demandé une solution régionale. Nous avons aussi appelé à tous les efforts de sécurisation et de démilitarisation qui sont attendus de chacune des parties prenantes, a ajouté Emmanuel Macron. Il n'a pas été souhaité une réunion à trois, Macron, Kagame, Tshisekedi, estimant que la situation est encore trop tendue. Il a néanmoins reçu tour à tour Félix Tshisekedi et Paul Kagame le 4 et 5 octobre à l'Élysée.
Et en ce qui concerne la fin des travaux proprement dit de ce 19e sommet de la francophonie, notez que trois enjeux majeurs ont marqué ce sommet, notamment la jeunesse francophone et l'emploi à travers le thème du sommet « Créer, innover et entreprendre en français ». Le sommet a placé la question de l'emploi des jeunes au centre des discussions avec la volonté de créer des solutions concrètes tant au sein de l'OIF que dans les États membres pour offrir à la jeunesse des opportunités d'insertion professionnelle en langue française. Il a été aussi question du multilatéralisme et la gestion des crises. Le 19e sommet de la francophonie a été l'occasion de réfléchir à la plus-value de l'OIF dans la gestion des crises qui touchent l'espace francophone. S'agissant des nouvelles adhésions et de changements de statut, plusieurs États et gouvernements ont soumis des demandes d'adhésion ou des modifications de leur statut à l'occasion de ce sommet. Parmi les nouveaux observateurs figurent l'Angola, le Chili, la Nouvelle-Écosse, c'est-à-dire le Canada, la Polynésie française et la SAR. Des pays comme Chypre et le Ghana ont vu leur statut évoluer pour devenir des membres de plein droit. Les travaux ont abouti à l'adoption de trois textes majeurs, notamment la déclaration du sommet, la déclaration de solidarité avec le Liban et la résolution sur les crises de l'espace francophone. Ici au pays, le bilan provisoire du naufrage sur le lac Kivu le jeudi 3 octobre s'est alourdi. À ce jour, on parle de 34 morts et 80 rescapés. Des recherches individuelles se poursuivent encore par les membres des familles qui ont perdu les leurs dans l'accident du bateau Merveille de Dieu près du port de Kituku à Goma. Au moment où des corps sont gardés à la morgue en attendant leur inhumation, certaines familles à Goma et à Minova, désespérées de ne pas retrouver leurs proches, organisent déjà le deuil. Depuis Goma, des précisions avec Denise Loukesso.
Deux jours après les drames, de nombreuses familles angoissées sont toujours à la recherche de leurs proches. Une partie de ces familles passe des journées entières aux abords du lac au bord de Kituku dans l'espoir de retrouver les corps remontés en surface ou tout simplement d'obtenir des informations supplémentaires. Ces familles déplorent les laxismes des autorités provinciales pour la poursuite des recherches approfondies sous l'eau. Elles sont dans une situation de désespoir et expriment leur colère. Le CICR et la force navale ont déployé des canaux rapides pour mener des patrouilles de recherche sur les lacs. Hier, vendredi, le service de protection civile a déclaré avoir repêché 5 corps qui ont été acheminés dans des morgues, ce qui porte à 34 le nombre de personnes décédées. On estime qu'il y aurait peut-être des personnes disparues. Difficile dans ces conditions de donner avec exactitude le nombre de passagers à bord de ces bateaux qui a chaviré. En l'absence de tout document servant des manifestes, les coordinations de la société civile de Minova et de Mufuni-Shanga déclarent avoir identifié 163 disparus. Les causes de cet accident restent encore à élucider. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
De son côté, l'association régionale d'approvisionnement en médicaments essentiels, ASRAMS, a remis hier au gouvernement provincial du Nord Kivu un lot de sacs mortuaires destinés à assurer une inhumation digne et respectueuse des victimes. Le vice-gouverneur du Nord Kivu qui a reçu ce lot remercie ASRAMS pour cette initiative. Il a également lancé un appel à d'autres partenaires pour se joindre aux efforts de secours et d'assistance aux familles endeuillées. Plus de détails avec Rosalie Zawadi.
Il s'agit des 100 sacs mortuaires pour adultes et 100 autres pour enfants. Le professeur Joseph Wasomisona, président du conseil d'administration de la SRAMES, dit que ces sacs mortuaires permettront non seulement de respecter la mémoire des victimes, mais aussi de protéger la santé publique en évitant la propagation des maladies.
Maintenant, là, ce qui est très urgent, c'est l'inhumation. Parce que l'inhumation ne va pas attendre. Dès que toutes les autorités seront saisies, je crois qu'ils vont ordonner ces inhumations. Donc nous avons estimé que nous devons d'abord faire face à l'inhumation digne de nos frères et sœurs qui ont perdu la vie.
Une intervention qu'apprécie le commissaire divisionnaire Romy Ekoukalipopo, vice-gouverneur du Nord Kivu.
Nous essayons de résorber toutes les crises, mais nous ne pouvons le faire que grâce à des partenaires également. Le gouvernement national, par l'entremise de la ministre des Affaires sociales, qui est déjà en nos murs, est en train de faire le nécessaire. Mais nous voudrons que nos partenaires au niveau local ici puissent également aider le gouvernement provincial.
Rappelons que de nombreuses familles attendent toujours des nouvelles de leurs proches disparus dans ces tragiques naufrages. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi.
Notez que la MONUSCO aussi a apporté son aide au gouvernement provincial du Nord Kivu après cet accident. L'aviation de la mission onusienne a été mise à contribution dans la recherche des survivants de ce naufrage. Au moins 3 corps ont ainsi été récupérés grâce à l'appui apporté au bateau de recherche par un hélicoptère de la MONUSCO. Et en ce qui concerne des réactions après le naufrage du bateau Merveille de Dieu, notons cette fois celle de la coordination provinciale de l'Union sacrée de la nation Nord Kivu. Dans une déclaration hier à Kinshasa, le coordonnateur s'est dit consterné par cette tragédie. Il recommande aussi notamment que des poursuites judiciaires soient lancées à l'endroit de tous les responsables de ce drame après une enquête minutieuse. Christian Tombo-Kamunda appelle aussi la population du Nord Kivu à soutenir les efforts de pacification amorcés par le président de la République pour que les routes soient réouvertes. On écoute Christian Tombo au micro d'Alain Irung.
Nous recommandons en toute fermeté aux autorités compétente de diligenter une enquête rigoureuse afin d'élucider la cause réelle de ces naufrages et prendre les dispositions maritimes nécessaires, favorisant la sécurité de nos populations qui voyagent sur les lacs Kivu. À la justice d'interpeller tous les acteurs coupables et de les déférer devant la loi sans complaisance, pour répondre de leurs actes, et également au gouvernement de prendre en charge les obsèques de nos citoyens victimes et surtout d'apporter assistance conséquente à la famille de ces victimes.
Le naufrage du bateau Merveille de Dieu a des retombées négatives sur l'économie de la région de Minova, à en croire en tout cas certains habitants de la région. La région repose essentiellement sur l'agriculture, l'élevage et le commerce. Une bonne partie des habitants de cette zone géographique sont des opérateurs économiques locaux. Les villes de Goma et de Bukavu s'approvisionnent en produits agricoles à partir de Minova. Et l'ennui majeur, c'est que plusieurs opérateurs économiques étaient justement ce jeudi à bord de ce navire qui a coulé avec de tonnes de marchandises. C'est toute l'économie de cette région qui a sombré, d'après cet habitant de Minova, joint par Denise Lukeson.
Étant donné que désormais, d'abord le premier aspect, l'effectif des personnes dévouées dans ce secteur est généralement réduit. Parce qu'on ne peut pas avoir l'économie sans les faiseurs des emplois, les gens qui sont en activité pour produire au profit de tout le monde. Le deuxième aspect sur l'économie est que les marchandises qui sont enfoncées dans l'eau constituent maintenant une perte totale, car après la vente au marché de Kituku ou de Goma, cet argent servirait à acheter d'autres produits avec bien sûr de l'intérêt, et ces bénéfices pouvaient également faciliter la continuité de l'économie du milieu. Maintenant, avec cet argent qui est perdu dans ces marchandises, c'est déjà un manque à gagner. Mais également, on signale une somme colossale, un montant considérable d'argent qu'on ne sait même pas calculer, qui s'est également enfoncé dans l'eau. Voilà, c'est déjà une perte totale et qui est difficile à récupérer désormais.
Le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa a nommé ce samedi 5 octobre Norbert Sengamalulukukwa, directeur général intérimaire de Congo Airways, la compagnie aérienne nationale de la RDC. Déjà le 4 octobre, par un arrêté, Jean-Lucien Boussa avait suspendu le directeur général de la société, José Lueya, et son adjointe Marie Ponchi de leurs fonctions avec effet immédiat. Selon une dépêche de la cellule de communication du ministère du portefeuille, cette décision fait suite à la mission d'audit que le ministre avait initiée au sein de cette société. À Lubumbashi et dans d'autres villes de l'ancien Katanga, plusieurs quartiers sont soumis au système de délestage dans la desserte de l'énergie électrique. Les victimes de ce délestage se plaignent et accusent la SNEN de ne rien faire pour y mettre fin. Au micro de Jangandou, Jean-Marie Mutombongoy, le directeur provincial de la SNEL, s'en défend et avance les raisons suivantes.
L'étiage sur les rivières Lufira et Lualaba. Lufira, vous avez les deux centrales de Koni et Mwadingusha, tandis que les Lualaba, vous avez Nzilo et Nsek. On n'a pas suffisamment la quantité d'eau parce que nous sommes pendant la saison sèche. À ce moment-là, nous réduisons les productibles, les vols récurrents des conducteurs en aluminium sur la ligne Zilo-Kolwezi. Et à ce qu'on a volé, vous avez des difficultés d'évacuer l'énergie produite par cette centrale. C'est plus de 75 MW. Les conséquences, ce sont les délestages qui s'en suivent. Vous avez également l'occupation anarchique des emprises des lignes haute tension, y compris les servitudes. Vous avez toutes ces activités qui naissent en dessous de ces lignes. Les équipes ont des difficultés d'intervenir promptement en cas de réparation et ça prend du temps. Tout ça contribue au délaissage que nous connaissons, également le vol des matériels électromécaniques dans les cabines. Et les gens ne font que constater le manque de cette énergie électrique dans certains quartiers.
Au Maniema, les agents de la régie des eaux ont déclenché ce week-end un mouvement de grève. Ils réclament le paiement de leurs arriérés de salaire de 19 mois. Ces agents disent ne pas comprendre comment l'État peut faire travailler quelqu'un plusieurs mois sans le payer. Alors que le salaire en RDC aide plus pour la survie quotidienne, le salaire revêt donc un caractère alimentaire avant tout. On écoute Amunda Layaosia, délégué provincial de la régie des eaux Maniema, au micro de Florence Kizalunga.
C'est une réclamation dans le sens de leur paiement de 19 mois. Nous avons 16 mois de salaires qui sont des arriérés, qui ne sont pas payés jusqu'à présent. Et 3 mois encore de suite, jusqu'à présent ici, depuis le mois de juillet jusqu'au mois de septembre, nous ne sommes toujours pas payés. Donc, ils se sont réunis pour revendiquer les droits parce qu'ils ont demandé à l'autorité qui nous régit au niveau national à ce qu'on leur paye. Mais ça n'a pas été le cas jusqu'à présent ici. Alors, ils se sont dit, comme l'autorité n'a pas bien répondu à leurs préoccupations, qu'ils puissent se soulever pour revendiquer les droits les plus légitimes. Vous savez que le salaire a un caractère alimentaire. Celui qui ne mange pas ne sait pas travailler. C'est tout à fait normal. Si seulement si les revendications sont répondues directement, ils rentrent pour travailler. Ils sont là pour travailler, mais on ne les écoute pas. C'est ça la problématique. Ils sont dans les droits de réclamer parce que vous ne pouvez pas faire travailler quelqu'un pendant 19 mois sans être payé. Impossible. Si vous êtes dans l'air pauvre, vous sentirez ce qu'ils sentent. Toutes les instances ont été informées de la question.
L'invité. Notre invité est Célestin Masumbuko, président national de la plateforme Sauti ya Wazee, entendez la voix des vieux. Il revient sur la célébration le 1er octobre de la Journée mondiale des personnes du troisième âge. Cette structure accompagnant plus de 36 000 personnes de troisième âge dans le Sud Kivu souhaite voir les droits de ces derniers être respectés et considérés. Il appelle également les jeunes à bien traiter cette catégorie de personnes de la société car ils deviendront eux aussi des personnes âgées. Masumbuko Célestin s'entretient avec Rachel Kessembangou.
Monsieur Masumbuko Chigembe Gembe Célestin, bonjour.
Bonjour, maman journaliste.
Journée mondiale de personnes de troisième âge. Une personne de troisième âge, c'est quel âge précisément?
Pour les personnes de troisième âge, on commence par 60, 65 ans au-delà.
Et pourquoi une journée en leur faveur?
Cette journée à leur faveur, c'est une journée qui était proclamée à l'États-Unis. Que ça doit être une journée des personnes de troisième âge du 1er octobre. Les journées internationales des personnes de troisième âge, c'est pour édifier.
C'est une occasion de faire le point sur le droit des personnes de troisième âge. Quels sont ces droits?
Les droits des personnes de troisième âge, les personnes de troisième âge sont oubliées depuis 1900. Personne que souci des personnes de troisième âge, même l'État, même la communauté. Jusqu'à ce qu'on les dise que ce sont les sautés qui sont les sorciers. Les personnes de troisième âge n'ont plus encore la force pour se débrouiller ou avoir une chose à soutenir toute personne qui l'entoure. Et voilà les problèmes vraiment qui dérangent les personnes de troisième âge. Quand les personnes de troisième âge ont manqué comment faire, ils sont obligés d'être à la route pour mendier.
Vous avez mis en place une structure des personnes de troisième âge, la plateforme Sauti Awazi. Entendez la voix des vieux, c'est ça?
Oui, pour attendre les vieux, puisqu'il y a beaucoup de structures de personnes de troisième âge qui n'étaient pas bien se fait enregistrer devant l'État. Et alors la plateforme, celle qui engorge toutes les structures de synergie qui se trouvent par-ci et par-là, et les met ensemble pour qu'ils s'enregistrent dans la plateforme. Et voilà que vraiment nous souhaitons que l'État nous accompagne pour réussir à cet objectif que nous avons de la plateforme Sauti Awazi.
Combien de membres constituent cette plateforme ou combien d'associations des personnes âgées constituent cette plateforme?
Bon, dans la province de Sud Kivu, nous avons 36 000 personnes de troisième âge à registrer, et il y a beaucoup de structures et des associations qui se font synergie dans la ville et dans les territoires.
Les membres de votre plateforme sont où? Ils sont dans des hommes de vieillards ou dans leur famille?
Ils sont dans leur famille. Nous n'avons pas une office de vieillards. Même un bureau de personnes de troisième âge, on n'en a pas. Mais nous débrouillons pour nous soulager quelque part pour que quand on fait une réunion ou quoi, on s'appelle pour réaliser tout ce que nous voulons réaliser.
Selon votre mémo lu, qu'est-ce que les personnes de troisième âge vulnérables attendent du gouvernement congolais?
La plateforme des personnes de troisième âge entend au gouvernement pour les soins médicaux d'abord et pour voir comment est-ce qu'il peut recevoir l'instruction pour avoir un hébergement des hospices de vieillards pour que toute personne qui peut-être n'a pas un enfant ou quoi hébergé quelque part. Et que l'État, même s'il a de bonne volonté, il peut soutirer peu d'argent pour les payer des médicaments. À leur compte, vraiment, les personnes de troisième âge, ils peuvent être un peu posés dans ce problème.
Un dernier message à ceux qui ont des personnes âgées dans leur famille, des enfants, des jeunes. Qu'est-ce que vous pouvez leur lancer comme message vis-à-vis des personnes de troisième âge?
Le seul message que nous les envoyons, nous voulons que tous. Non, c'est pour l'éduquer seulement et les montrer que demain ou après-demain, eux aussi, ils seront des personnes de troisième âge.
Monsieur Masumbuko, je vous remercie.
Et moi, je vous remercie, maman journaliste de l'OCAPI.
Merci à vous tous ceux qui avez suivi ce journal. Merci aussi à Alain Erongo Mouchinge pour sa précieuse contribution et pour la coordination de cette édition. Sans oublier Pierre Diassinois qui l'a mise en onde à la présentation. C'était Noëlla Luzitu Kabambi. Restez à l'écoute de programmes de Radio Okapi, le média de la paix.